Bienvenue à la French Connection, épisode un peu spécial, le premier épisode de Damien en Amérique.
Salut tout le monde, eh oui, comme Tintin en Amérique, me voilà.
Il a connu déjà les grands froids et la neige dans le visage, donc tout à fait, et il a l'air de, semblerait apprécier encore cet état de fait. Donc,
je me plains pas trop parce qu'on m'avait dit qu'il va faire très 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 froid. Je m'habitue lentement. Les flocons entre les dents, pure merveille.
Oui, c'est la plus belle section de l'hiver. C'est quand que janvier va frapper que ça va être un peu moins, mais bref. Commençons avec les Shameless Plugs. Décembre, une date inconnue encore. Le Québec sec va avoir sa bière de Noël. Le 7 février 2020, Shaoui Sec organise une journée de cybersécurité, sa quatrième. Et finalement, le 20 avril, Québec numérique organise le CQE. Et il y a des rumeurs que Damien va peut-être faire une conférence.
Alors, j'ai entendu dire, mais je ne suis pas sûr, il faut que je lui pose la question. On va très certainement revenir sur ce qu'on avait révélé lors du Hackfest, sur ces fuites de données gouvernementales, et expliquer tout ce qui s'est passé entre le moment de la révélation, le moment des rencontres avec plein de gens, et le mois d'avril. À suivre!
Ça risque d'être fort intéressant. Donc, commençons avec les nouvelles et celle de Damien. Dans le fond, ça fait 15 jours qu'il est au Canada et a vu différentes choses, vécu différents éléments. Donc, partagez un peu ces choses.
Alors, vous connaissez ma spécialisation, hein, qui est tout ce qui va être l'OSINT, le social engineering, l'ingénierie sociale. Et donc, du coup, pendant ces 15 jours, je ne vous cache pas que ça a été intensif, de suite intensif. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour remercier tous les gens qui m'ont envoyé des mails, des SMS, des tweets, des LinkedIn, des Facebook pour prendre des nouvelles, parce que certains s'inquiétaient, d'autres demandaient mais Atas, c'est terminé, Data Security Wedge, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. La preuve, hein, c'est que depuis une semaine, tout est reparti comme en 40, comme on dit en Europe. Mais plus sérieusement, voilà. Donc, un grand, grand, grand merci. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Et puis aussi, un grand merci à toi, Nico. Un grand merci aussi à Patrick, qui ont pris des nouvelles, qui sont venus me nourrir, qui sont venus voir si ces petits Européens n'étaient pas trop frigorifiés le matin aussi à Montréal. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était la petite aparté. Un grand, grand merci. Alors, comme je vous le disais, hein, notre spécialisation en cybersécurité est diverse et variée. Hein. Nicolas est un grand technicien. Moi, je suis plutôt un fouineur, hein, le journaliste que je suis, que j'étais en Europe, et puis cette spécialisation que je peux avoir. Et donc, du coup, j'ai pu regarder d'un œil différent comment ici sont gérées les données personnelles. Alors, je vais prendre d'abord par la partie qui m'a le plus étonné, qui m'a le plus pas choqué, mais presque, hein, parce que quand je commence à y mettre du social engineering et de l'OSINT, je me dis que, mon Dieu, ici, il va falloir se blinder à la mode chevalier de la table ronde. Pourquoi ? Un exemple d'abord, ici, j'ai dû faire ce qu'on appelle le NAS, le numéro d'assurance sociale. Un numéro qui, pour l'Européen, j'ai très clair avec vous, c'est en même temps votre carte d'identité, votre passeport, votre carte bancaire, votre moyen de paiement. Bref, vous le paumez, vous vous retrouvez avec 50 milliards de crédits dans derrière le dos. Et pour vous en sortir, clairement, ça doit être super compliqué. D'ailleurs, hein, tous les gens de chez Desjardins, cette société bancaire du Canada qui s'est fait voler ses données par un de ses anciens employés, je comprends pourquoi beaucoup de personnes volées, hein, plus de 4,3 millions, si je ne m'abuse, doivent claquer un petit peu des fesses, parce que s'il y avait les NAS dedans, quand je découvre ce qu'il est capable de faire un malveillant avec ce genre de choses, c'est, comme diraient les jeunes, what the fuck. Donc voilà, premier élément. Deuxième élément, je suis allé faire un compte en banque, donc juste pour le NAS, hein, ce document a été fait en 10 minutes. Parce que le côté administratif, une fois qu'on vous a intégralement dépouillé votre vie privée pour voir si vous pouvez rentrer sur le territoire et donc si vous pouvez y travailler, et je l'espère, moi et ma famille, y vivre définitivement et y couler des jours heureux, c'est impressionnant. Donc à partir de là, j'ai mes papiers, tout va bien. Je me suis quand même rendu compte que les gens qui venaient récupérer leur NAS, donc ce sont beaucoup d'Européens, ce sont beaucoup d'étrangers qui viennent donc soit travailler, soit pour y vivre, pour rejoindre la famille, etc. Pardon, hein, mais collecter des NAS de nouveaux arrivants est malheureusement terriblement facile. Pour ceux qui écoutent, pour ceux qui veulent venir sur le territoire, vous allez vous rendre compte que pour avoir ce document, les fonctionnaires sont d'une efficacité redoutable, très grand, ils donnent de très bonnes informations, ils expliquent très clairement par la lecture et par l'oral pourquoi il faut faire attention. Ouais, enfin, sauf que moi, en sortant de ce bâtiment administratif, j'avais donc des étrangers comme moi qui appelaient leur famille pour dire « ça y est, c'est bon, voilà le chiffre ». Et là, je me suis dit « non, ça va pas bien ou quoi ?» J'ai pu, je vous avoue, hein, j'aurais été un pirate, un malveillant, j'aurais pu en collecter un tout petit peu plus d'une dizaine en moins d'un quart d'heure. Comment ? Simplement en faisant semblant de téléphoner, en m'asseyant à côté du bâtiment et simplement en écoutant les nouveaux arrivants appeler leur famille, parce que je vous cache pas que ceci est un stress pour quelqu'un qui est seul, qui vit là-bas et qui veut rassurer les familles. Voilà, donc ça c'est un élément pour vous qui nous écoutez et si jamais vous avez la chance de pouvoir eh bien rejoindre ce beau pays. Ensuite, je suis allé ouvrir un compte en banque. Je vais être très honnête avec vous, ça prend une heure, parce qu'en nouveaux arrivants, selon les banques, voilà, ils vous prennent vraiment par la main. Je vous donnerai pas le nom, parce que c'est pas le but, c'est juste pour expliquer que très certainement on nous écoute aussi dans ce genre de structure, et maintenant que je travaille ici, je me ferai un énorme plaisir de vous former, de vous éduquer et de vous faire saigner du nez. Mais plus sérieusement, mon banquier, adorable, m'explique toutes les informations que je dois savoir sur moi, nouveau Québécois, comment je dois payer, mes cartes de crédit, etc., mes cartes de débit. Et que ce que je vois, c'est que nous rentrons dans un bureau où l'écran est face fenêtre, avec mon conseiller bancaire dos fenêtre, et moi face fenêtre, avec des gens qui passent derrière la fenêtre et qui pourraient très bien regarder ce qui se passe sur l'écran. La deuxième, what the fuck? Voilà, je lui ai juste fait préciser en disant, est-ce que vos vitres sont teintées? Et ce brave monsieur, ou cette brave dame, je ne dirais pas parce que ça évite voilà, de tracer aussi, mais toujours est-il, il m'a dit « pas d'inquiétude ». Vous me connaissez, je suis sorti ensuite, et je suis resté un petit peu autour des fenêtres parce qu'il n'y avait pas que son bureau à lui. Et troisième, what the fuck, croyez-moi, on voit parfaitement les écrans et on voit parfaitement le contenu. Alors avec nos téléphones aujourd'hui, 4K et tout ce que vous voulez, filmer ou photographier le contenu de l'écran, c'est loin d'être négligeable. Ce qui était très adorable aussi, c'est que mon banquier ou ma banquière, à un moment, ouvre un fichier Excel devant mes petits yeux ébahis. Sur ce fichier Excel, qui est resté à l'écran pendant au moins 3 secondes, j'ai failli saigner et de l'œil, et de l'oreille, et du nez. Parce que ce monsieur ou cette dame notait l'intégralité de ses mots de passe dans son fichier Excel, parce que va-t-il ou va-t-elle me dire « Oui, mais comme on les change souvent, j'ai du mal à les retenir ». Et là, quatrième, what the fuck? Je lui ai rien dit, sauf à la fin, où quand il a vu le métier que j'allais exercer ici, je lui dis, oui, et surtout, n'oubliez pas de fermer votre fichier Excel, parce qu'il m'amenait avec, dans un autre bureau, en laissant son ordinateur, son écran et son fichier Excel affiché à l'écran. Voilà, ça, c'est les 3 premiers petits éléments du jeune Québécois que je suis, et je finirai par les cartes de paiement sans contact. Elles sont toutes sans contact ici. J'ai une application qui permet de lire les cartes sans contact. Et quand je vois la carte, qu'elle soit débit ou crédit, je vous révèle pas l'historique bancaire, hein, je saigne encore du cerveau tellement j'ai dû comprendre le fonctionnement bancaire du pays, mais les deux cartes sont sans contact, et ici la carte sans contact, c'est quand même 100$ par achat. Moi, j'ai très clair avec vous, je l'ai fait couper. J'ai adoré aussi, c'est le fait de pouvoir choisir moi-même mon mot de passe ou aller dans un distributeur et changer mon mot de passe. Voilà. Ce sont des petits éléments qui me font dire que dans un social engineering, dans une veille, eh bien voilà, des informations qui pourraient fuiter parce que le consommateur, l'utilisateur, n'est pas bien éduqué. Sauf que, je vais vraiment mettre en exergue ce que je vais dire là maintenant, je trouve que les banques, alors j'ai vu la Banque Nationale du Canada, j'ai vu Desjardins, je vous avoue que j'ai oublié la troisième. Bon, en fait, j'en ai vu 4, hein, parce que je comparais, etc. Ça ne veut pas dire que Desjardins ou la Banque Nationale du Canada font partie de mes banques, hein, c'est juste pour prévenir. J'ai été aussi épaté par Hydro-Québec, j'ai été épaté aussi par Bell, par les niveaux de sécurisation qu'ils ont mis en place pour protéger les données de leurs clients, de moi, hein, parce que bon, ouais, très clairement, hein, je suis chez Bell et Hydro-Québec. De toute façon, on n'a pas trop le choix, hein, il n'y a pas beaucoup de concurrence ici, mais très sérieusement, ben voilà, pour se faire avoir par un phishing, ici, il faut quand même se lever de bonne heure, hein, parce que je vais prendre l'exemple, alors je ne sais plus quelle était la banque, je crois que c'est Desjardins, quand j'ai été regardé, il demande à mettre une phrase, vous choisissez la phrase de votre choix, vous devez choisir une image, donc ce qui veut dire que si un phishing ne contient pas la phrase de votre choix, il n'y a que vous qui la connaissez, et votre banque, eh bien le phishing ne va pas l'afficher, vous mettez une image, eh bien si ce n'est pas l'image que vous allez choisir, si je me souviens bien, il y avait voiture, il y avait vieux poste de radio, ben, il y avait une vingtaine d'images. eh bien, si cette image n'apparaît pas dans votre phishing, bah, du coup, c'est pas là, c'est pas le compte officiel. Plus les questions, plus les mots de passe. Enfin, voilà. Par contre, ce qui m'inquiète fortement, c'est que ici, il faut des applications téléphoniques partout. Faut pas paumer son téléphone. Il faut pas que les applications soient, pardon, hein, mais malmenées par un éventuel cheval de Troie, par une attaque de l'homme du milieu. Enfin, voilà. Alors, il y a du chiffrement. Je vous avoue que j'ai regardé dans certaines applications. Voilà, c'est chiffré. Mais ça nous demande d'avoir des applications dans nos téléphones portables pour être connectés avec ces entreprises. Et qui, pour rappel, comme je vous le disais tout à l'heure, vous payez en un simple clic, hein. C'est pareil, hein. Là, je voyais mes propriétaires. Je vais pouvoir les payer avec ce qu'ils appellent l'Interact. Alors, c'est simple, hein. Vous leur envoyez un mail et ils sont payés. Voilà. Donc moi, l'Européen, moi, l'ancien Français, qui découvre ça, mais je suis un pirate. Mais dans ma tête, j'ai des milliards de possibilités à mettre en place. Alors rassurez-vous, je ne le suis pas. Toi, agent de l'immigration qui nous écoute avec grand savourage, vous inquiétez pas, je vais pas le faire. J'ai envie de rester ici. Donc, merci de prendre soin de moi. Alors, mais voilà. Donc j'ai découvert plein de choses. J'ai trouvé ça passionnant. Et je réitère, le Québécois est d'une gentillesse phénoménale. Je vais vous prendre un exemple très concret. Je finirai sur ça. Ma banque, quelle qu'elle soit, et je pense que toutes les banques ont la même stratégie. Vous avez une application, vous galérez devant votre distributeur, vous galérez devant votre carte bancaire qui vous dit « Ah non, tu peux pas retirer les sous, ton chèque n'est pas encore validé. » Ok. Eh bien, vous appelez, vous avez un gars ou une dame qui vous répond, ils sont adorables. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'ils ont un social engineering un petit peu léger, c'est que à un moment, ils vous posent 2-3 questions. Et vous vous dites, mais c'est quoi ces questions qu'ils me posent? C'est hors contexte. Non, en fait, je subodore que devant leur ordinateur, ils ont des questions à poser au client pour s'assurer que c'est le bon client. Donc voilà, on sent qu'il y a de l'éducation, on sent qu'il y a de l'information. Tout ça dans des gens qui sont d'une gentillesse, c'est rassurant pour le Québécois, c'est rassurant pour moi, le consommateur, l'utilisateur. Mais, oh là là, si vous saviez le nombre de scénarios que je suis en train d'écrire, eh ben pour voir si les malveillants sont capables de le faire, parce que moi, du coup, maintenant, je vais chercher, ça fait partie de mon nouveau métier, chercher si des pirates sont en train de mettre en place ce genre de stratégie pour repener, je vais être très honnête avec vous, de jolies stratégies de cyberdéfense qui sont pas mal.
Oui, très, très grande introduction sur le territoire et comme à l'habitude, Damien fait des folies à l'écran. C'est pas parce qu'il est rendu en Amérique qu'il s'est calmé à ce niveau.
Alors, je me suis rendu compte quand même qu'il faut faire très attention aux blagues qu'on peut faire au Québec. La blague bancale XXL, je vais être très honnête avec vous, je me la calme à 96% dans le cadre professionnel. Dans le cadre d'amis, qui est le cas de ceux qui nous écoutent, je continuerai, rassurez-vous. Mais je me suis appris et j'ai appris à me modérer dans la job. Oui, parce que ici, laissez tomber. Hein, on féminise tout. Hein. En France, on dit le job. Non, ici, on dit la job.
Ouais. Ouais, donc, l'introduction des anglicismes dans la langue n'est pas au même moment en France et au Québec, ce qui donne des choses très intéressantes. L'entrée des anglicismes au Québec, c'est les années 70-80. Et en France, c'est 90-2000. Donc, c'est pas les mêmes anglicismes, pas les mêmes endroits, et ainsi de suite. Et donc, la féminisation de certains mots anglophones.
Alors, justement, mêmes endroits et féminisation, j'ai quelqu'un qui... Alors, tout le monde est, je vous dis, vraiment, tout le monde est très professionnel, mais très adorable. Et, oh, c'était bizarre, cette liaison. Et toujours est-il que j'ai quelqu'un qui vient me parler, on parle ensemble, on parle de la famille, puis il me dit, tu as combien d'enfants? Alors, petit détail, pour ceux qui ne connaissent pas la stratégie du vocabulaire ici. Surtout, ne dites jamais que vous avez deux gosses. Parce qu'en France, deux gosses, ce sont bien deux enfants. Au Canada et au Québec, je vous laisse regarder dans le dictionnaire ce que veut dire gosse.
De toute façon, les Québécois sont déjà largement immunisés contre ça. C'est l'inverse n'est pas aussi vrai. Donc, il y a beaucoup panoplie d'autres expressions qui sont étonnantes pour un Français que tu auras la chance de découvrir dans les prochaines semaines et prochains mois. Ce qui est très, très comique. Passons sur une nouvelle, cette fois-ci dans une vraie nouvelle, sur un Québécois qui a farfouillé sur des compte de célébrités pour probablement aller chercher des éléments crunchy qu'ils devaient probablement revendre à des journaux sensationnalisme. Et finalement, il s'est fait prendre la main dans le sac et il doit comparaître pour ses méfaits. Donc,
Alors, oui, c'est très intéressant cette histoire. Souvenez-vous, il y a maintenant un an et demi, on avait fait un podcast où je vous avais expliqué être tombé sur des boutiques pirates dans le black market spécialisées dans les photos. Alors, bien sûr, pas les photos de Nicolas et moi, de Patrick et toute la bande. Hein. Non, je pense que nous voir nus, c'est pas top, hein, soyons très clairs. Quoique, Nicolas, mais plus sérieusement, je vous avais expliqué que j'étais tombé, et j'en vois de plus en plus, hein, des boutiques qui, eh bien, proposent, soit gratuitement contre des échanges, soit contre de l'argent, eh bien, des photos dénudées, soit des photos particulièrement hard, pornographiques, hein, soyons très clairs, eh bien, de femmes qui envoient ça à leurs copains, leurs maris, ou des hommes qui envoient ça à leurs copains, leurs copines, peu importe. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée, mais souvenez-vous qu'à l'époque, j'avais précisé que quand on est amoureux, hein, on se sert de ses deux mains, hein, pas du téléphone portable ou de la caméra. Et que surtout, eh bien, toutes ces données, si on n'y prête pas garde, sont sauvegardées. Sauvegardées où? Dans les clouds divers et variés que proposent Samsung, Huawei, Apple, iCloud et compagnie. Pardon, ouais, ici il fait moins 14 quand même, hein, donc j'ai attrapé Tchoum. Mais plus sérieusement, voilà. Et donc cet homme de 45 ans a été arrêté dans la semaine de ce podcast. 45 ans, alors ses amis disent que c'est un génie de l'informatique. Bon, ok, le génie a quelques petits troubles. Mais toujours est-il que cet homme, depuis au moins 5 ans, surveillait des clouds qu'il avait pris en surveillance. Alors, il y a des stars de la télévision, il y a des vedettes de sport, il y a à première vue aussi des particuliers. D'après les autorités, d'après son avocat, il ne faisait ça qu'à des buts personnels. Le gars espionnait donc des milliers de personnes à but personnel. Ok, pourquoi pas? Je ne comprends pas trop cette perversité, hein, de regarder au-dessus de l'épaule de telle ou telle personne, surtout à des fins personnel. Mon expérience me fait dire que malheureusement, les fins personnelles dans ce business-là, j'y crois pas 5 minutes. Oh, souvenez-vous, il y a quelques années, de toutes ces starlettes d'Hollywood qu'on a retrouvées à poil sur Internet, voire même dans des relations sexuelles, parce que leurs données avaient été volées justement sur des clouds divers et variés. Alors, il paraît que ce génie informatique avait donc eu accès à ça. Je vais être très clair avec vous. Hein. Pour moi, ça sent à 15 km le phishing. Ça sent aussi peut-être très certainement l'hameçonnage. Hein. Ça sent aussi très certainement peut-être, oh, j'ai récupéré le mail de telle ou telle personne et je n'ai plus qu'à chercher son mot de passe dans différents black market ou différents forums accessibles ou non. Et puis après, surveiller. Oui, mais surveiller, espionner, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de stocker des données depuis plusieurs années? Bon, ok, je vais garder les propos de sa défense qui dit qu'il ne faisait ça qu'à des fins personnelles. Ok.
Bon, mais même à fin personnelle, c'est quand même l'intrusion dans la vie privée des gens. C'est un peu, c'est très extrême comme comportement. C'est comme tu mentionnais, c'est de la perversion. Moi, ce qui est un des éléments qui me chatouille énormément, c'est tout le parage autour qui dit que c'est un génie, que tout ça. Et j'ai un doute raisonnable de son niveau de génie qu'il a, un. Puis on nous revient à peu près sur les discours début des années 2000 où si moindrement on était capable de faire fonctionner un ordinateur, on était considéré comme étant un whisker, une personne super brillante. Quand on avait fait, on était juste capable de comprendre comment ça fonctionnait. Fait que là, il y a une marge.
Oui, d'autant plus que ce qui est très intéressant, c'est que bon, ok, il espionnait des gens, mais voilà, je vois pas l'intérêt. S'il avait été un génie de l'informatique, pourquoi n'a-t-il pas alerté? Pourquoi n'a-t-il pas voulu mettre en avant ce génie? Alors, c'est un petit aparté, hein, mais j'ai ouï dire qu'il travaillait pour une entité bancaire du Québec qui, voilà, a-t-il aidé sur d'autres affaires? Parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre, les autorités étaient sur son cas depuis plusieurs mois, suite, en fait, à une plainte d'une des vedettes de la télévision locale. Donc, voilà. Donc, je ne mets pas en doute le fait qu'il faisait ça à des fins privées, effectivement, peut-être. C'était un simple curieux. Après tout, il y a bien des gens qui regardent la télé-réalité pour voir des gens dans leur télévision se disputer, boire des bières, vivre comme des hamsters dans un écran. Pourquoi pas? Mais comme tu disais, Nicolas, bon, bah, pourquoi espionner d'autres gens, hein? Après tout, il existe aussi d'autres business de gens qui sont passionnés d'avoir devant eux des caméras de vidéosurveillance juste pour voir ce qui se passe. Chacun ses plaisirs. Celui-là m'inquiète fortement parce que, moi, mon expérience me fait dire qu'on ne fait jamais rien gratuitement.
En général, puis de toute façon, puis là, c'est un autre avertissement très important à tout le monde, et tu l'as dit là, on l'avait déjà dit, ne prenez pas de photos nues avec votre téléphone. C'est pas que c'est mal, c'est que ça va finir par vous attraper à un moment donné ou un autre. Par accident, il va synchroniser dans un info nuagique quelconque. Peu importe. Maintenant, tout est tellement trop facile ou trop synchronisé entre nos appareils que ça se peut que par erreur, et par erreur, il s'agit de... ça va être facile à trouver. Là. Oui, Damien?
Si vous êtes des parents, mais aussi toi, l'adulte qui nous écoute, d'abord merci, parce que ça nous fait plaisir, mais surtout, je vais prendre l'exemple que j'ai vécu il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours ici, où je précisais à des gens, vous avez reçu un mail d'Apple vous disant que votre cloud est saturé. Tous les gens que j'ai vus, bon, il y en avait moins de 5, hein, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, ça, on était une petite tablette, et sur ces gens, on était 4, en fait, je suis tout, j'étais là, donc on était 5 et il y avait 4 personnes. Les 4 personnes m'ont dit, ah oui, on a reçu le mail. Et je dis, mais vous êtes au courant à quoi correspond ce courriel? Oh ben non, pour nous, ils nous vendaient de la publicité, on l'a effacé. Non, ça veut dire que votre superbe iPhone que vous avez acheté au moment où vous êtes inscrit, vous avez validé l'e-cloud, vous avez validé donc le fait que ce qui est dans votre téléphone est sauvegardé aussi dans l'espace nuagique d'Apple. Et donc, s'il vous dit ça, ça veut dire que votre espace nuagique est plein donc de données que vous ne maîtrisez pas parce que vous ne saviez même pas qu'il est sauvegardé. Là, ils m'ont tous regardé d'un autre œil, parce que rien n'empêche de penser que peut-être l'une de ces 4 personnes, voire peut-être, et je l'espère pas, les 4 personnes, leur login et leur mot de passe, leur identifiant de connexion, est connu par des pirates, par peut-être était connu par cet homme de 45 ans, et peut-être que tout ce qui était sauvegardé a été surveillé par quelqu'un qui, ah non, il le jure la main sur le cœur, n'était pas revendu.
Ouais, ça ramène aussi tout l'aspect 1, c'est trop automatique, c'est effectivement les appareils Apple, les nouveaux appareils que configurés vont automatiquement pousser dans le iCloud toutes les informations, puis tout nouveau appareil, même si l'ancien était désactivé, le nouveau va l'activer et va se mettre à propager les informations dans le iCloud, ça c'est une chose. Et ça ramène au niveau de l'hygiène personnelle, au niveau de la sécurité, aller sur ces fournisseurs-là, maintenant ils l'offrent toutes, tous les appareils qui sont rattachés au compte, vérifiez s'ils sont tous légitimes. S'il y en a qui sont plus bons, effacez-les. Google, Apple, Microsoft, ils l'offrent tous. Faites-le. Vérifiez s'il n'y a pas des applications tiers qui se branchent. Vérifiez. Faites votre hygiène de base. Ça manque un peu d'éducation des gens, grand public. C'est de l'autre aspect aussi à ramener. Puis ça limite la probabilité, puisque maintenant, tous les services info nuagique, alerte si une connexion non prévue dans un territoire non prévu. Surtout, Damien, tu dois beaucoup vivre le fait que comme tu as changé de zone territoriale, ça doit arriver régulièrement que tu te fais alerter qu'il y a un intrus, un méchant intrus qui s'est branché avec ton compte au Canada. Donc, tous ces éléments-là doivent être surveillés. Fait que c'est un peu l'autre aspect que les gens n'ont pas assez. Et oui, Damien?
Imaginez, j'ai ma PS4 qui commence à me dire: vous êtes bloqué parce que quelqu'un tente de vous pirater du Canada. Et là, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de jouer, les gars. Non, c'était moi. Non, mais je taquine. Mais effectivement, voilà, mettez tous les outils qui vous sont proposés parce que on tape tout le temps sur Facebook, Google, Apple, etc. Mais ils ont tellement mis aujourd'hui d'outils qui permettent de vous alerter en temps réel d'une tentative de connexion XY. Pensez aussi à la double authentification. Utilisez ces outils. Dans tous les cas, ils ont les informations sur vous. Donc maintenant, faites de manière aussi à contrôler ces informations et à bloquer un maximum de potentialités d'interception licite ou illicite. Et quand je parle de licite, ça vous permet aussi de vérifier toutes les applications que vous avez pu installer à droite à gauche. Ça vous permet de faire le ménage aussi, c'est pas négligeable.
Au moins une fois par année. Et comme le temps des fêtes arrive pour tout le monde, et comme on présume que la plupart de nos auditeurs sont des gens qui sont quand même très éveillés en sécurité et en informatique, vous allez vous retrouver dans vos familles pendant le temps des fêtes. Propager la bonne nouvelle, informer dans votre entourage que c'est important de faire une hygiène minimale, d'activer le 2-facteurs dans Facebook, de vérifier que les comptes sont branchés dans Google, dans iCloud, dans Azure, dans peu importe la plateforme, parce qu'il y en a plusieurs. Activer les 2-facteurs aussi. Même Twitter s'est débarrassé des 2-facteurs par SMS maintenant, accepte le vrai 2-facteurs. Donc, c'est le temps à tous ces gens-là. Mes comptes se font essayer régulièrement. J'imagine que les tiens aussi, Damien. Je me fais attaquer. Fait que les 2-facteurs sont très efficaces. Je me fais alerter sur une régulièrement que j'ai une tentative de connexion non réussie sur un de mes comptes privés ou publics, parce que j'ai quand même les deux, et je pense qu'on est tous pas mal dans le même bateau, où on a une face publique, une face privée, laquelle on ne partage pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, je vous suggère, et Damien le fait un grand oui, faites-le. Vous avez partagé pas les mêmes informations sur les mêmes comptes, parce que le OSINT public, mettez vos comptes publics plus réservés ou plus pas des informations qui peuvent vous identifier facilement, et inversement, vos comptes privés, vous pouvez être un peu plus large, mais pas de photos nues, parce que ça va venir faire mordre à un moment donné ou un autre, parce que par hasard, vous peut-être renversez votre compte privé à un compte public, et ça, c'est très facile de faire l'erreur. Donc, vous pouvez tout d'un coup publiciser toutes vos photos, toutes vos discussions qui sont privées dans un compte qui est tout coup, par magie, devenu public. Oui?
J'ai rêvé, ou quand tu as parlé de photos nues, tu as dit surtout, vous allez vous faire mordre. Il va falloir me montrer tes photos, Nicolas.
Ah, j'ai pas de photos nues, fait que, hein, on règle le problème à la base. Fait que c'est ça, voilà. Et sur cette folie, passons à l'autre nouvelle, qui, celle-là est une nouvelle plus française, où il y a un pirate qui est allé voler une cagnotte en ligne de plusieurs milliers de dollars. C'est quand même un gros vol.
Oui, et je voulais revenir sur cette information parce qu'elle est à notre image, elle est à l'international, qu'on soit européen, qu'on soit d'Amérique du Nord. Il y a de plus en plus de sites internet qui proposent d'ouvrir des cagnottes. Alors c'est génial parce que ça permet d'inviter ses amis, ses collègues à participer à un mariage, à un baptême. Et là, malheureusement, plus dramatique, en France, il y a eu un accident d'hélicoptère qui a... l'hélicoptère s'est écrasé et trois hommes de la sécurité civile. Donc ce sont des gens qui sont là pour nous aider, il y avait les pompiers, bref, ce sont des gens qui interviennent pour sauver d'autres personnes. Malheureusement, ils sont donc décédés dans le cadre de leur emploi, et leurs collègues, pour aider les familles, ont ouvert donc cette fameuse cagnotte qui, ouverte le 3 décembre, a pu récolter plus de 30 000 euros, donc ça fait aux alentours de 35 000 dollars canadiens. Voilà, donc super, ça marche super bien, plus de 900 personnes participent, sauf que patatrac, qu'est-ce qui arrive? Un pirate a trouvé le moyen de mettre la main sur cet argent, a transféré cet argent et s'est acheté des produits numériques, dont des cartes Amazon. Et je vais vous expliquer un petit peu à la fin pourquoi il a fait ça. Et donc, du coup, tout l'argent a disparu. Il restait plus que 600 euros sur cette cagnotte. Autant dire que les organisateurs étaient totalement perdus parce que, sur ce site qui a été utilisé, il n'y avait pas de double authentification, il n'y avait surtout pas de demande de validation pour le transfert d'argent. En bref, le pirate a mis la main sur le mail de l'organisateur. À partir de cet élément-là, il a pu orchestrer l'intégralité du détournement de cet argent. C'est dramatique, parce que ça prouve d'abord une première chose, mais ça, je ne cesse de vous le dire, que les pirates n'ont aucune foi. Ils s'en foutent de qui vous êtes. Ils s'en foutent que ça soit une cagnotte pour aider une famille dont le papa est décédé. Dans l'état d'esprit d'un pirate, mettez-vous ça dans le crâne. On n'est que des petits porte-monnaies sur pattes pour eux. Mettez-leur des bâtons dans les roues parce qu'ils vont les briser, vos pattes, pour tout voler, de vos identités à votre nom, en passant par votre photo, en passant par l'argent, ils vont tout prendre. Donc là, la société devrait mettre de la double authentification, du coup ça va protéger les organisateurs. Les organisateurs, faites attention à vos mots de passe, attention à votre mail, attention à toutes les données que vous transmettez pour ouvrir. C'est le principe que si vous achetez un garage, une voiture, une maison, un appartement, peu importe. Vous avez des serrures avec des clés. La clé, c'est pas la même qui ouvre votre voiture, le bureau, votre boîte aux lettres. Il faut une clé unique pour chaque lieu, un mail unique pour chaque lieu. Je ne cesse de le dire. Pourquoi ? Parce que voilà encore un exemple très concret. Imaginez le choc de la famille, des organisateurs. Psychologiquement, c'est comme un viol. C'est terrible. Parce que on a son identité numérique. Attention, je parle de viol numérique. Je veux vraiment pas faire l'amalgame avec le vrai viol physique que malheureusement trop de femmes subissent. Voilà, ouais, je veux bien faire la différence. Mais pour vous dire que aujourd'hui, le vol de données numériques, c'est comme un cambriolage à votre maison. Le stress est là. Qu'ont-ils pu voler d'autres? Parce qu'on va pas se voler la face. Qu'est-ce qui me dit que l'organisateur n'avait pas le même mot de passe partout où il allait dans le monde numérique, qu'il utilisait le même mot de mail partout. J'ai retrouvé son mail, moi, dans le black market, etc., etc. Voilà, donc faites attention. C'est vraiment pour vous dire que même une cagnotte, le monde des bisounours et des licornes, c'est que dans les films et dans les livres pour enfants. Face à vous, vous avez des ogres, et croyez-moi, ils feront tout pour vous bouffer.
Absolument. Et tu mentionnais qu'il y a un transfert dans les cartes Amazon. Est allé expliquer la raison pourquoi ils ont utilisé ce véhicule-là pour sortir l'argent.
Alors, il faut savoir que l'entreprise qui permet cette cagnotte a annoncé qu'elle allait rembourser les organisateurs. Donc, ça veut dire que, un, d'abord, ils vont donner un coup de main, et deux, qu'ils se sont peut-être rendus compte aussi que leur processus de virement n'est pas si efficace que ça. Premier point. Et pourquoi, par exemple, des cartes Amazon? Mais ça peut être aussi des cartes G2A, vous savez, hein, pour acheter des jeux vidéo. Eh bien, c'est simple. Pour les pirates, ça permet de blanchir l'argent. C'est simple. J'infiltre votre compte en banque, en tout cas le compte du site internet sur lequel vous avez de l'argent. Mais pas les compagnies. Vous ne l'avez pas bien sécurisé. Vous n'avez pas suivi les modes opératoires pour sécuriser le compte. Le pirate ne va pas donner son compte bancaire, ça paraît évident. Non, il va utiliser cet argent numérique pour acheter des comptes. Oh, bah c'est simple, hein, des cartes Amazon en Allemagne, par exemple. 25 euros, 50 euros, 150 euros, 250 euros. Et du coup, il a des cartes qui sont de simples numéros d'achat chez Amazon qu'il va revendre ensuite, lui, dans le black market. Du coup, il a blanchi son argent. Il achète, il s'en fout, lui. Il a volé 30 000 euros. Même si ça lui rapporte 10 000 euros après avoir blanchi ça sous forme de carte Amazon, qu'il ne va pas revendre 250 euros, il va les revendre 100 euros. Et mais les 100 euros que des internautes vont lui acheter, lui, il va pouvoir blanchir cet argent. Donc, on va prendre cet exemple-là parce que j'ai plein de tarifs. Quand vous lisez toutes ces sociétés qui vous disent « voilà les tarifs dans le black market », tout ça, c'est du pipi de Sansonnet, hein, c'est de la pisse d'âne, hein, c'est de la pisse de caribou, hein, soyons très clairs. C'est voilà, il a volé 30 000, il va blanchir ça, il va peut-être toucher 5 000 ou 10 000 euros, 10 000 dollars. Mais il aura blanchi son argent sur le dos d'une association, sur le dos d'une cagnotte, sur le dos d'Amazon, et tout le monde est content. Non, personne n'est content, sauf lui.
Ouais, c'est le principe du crime organisé. De toute façon, les façons de blanchir l'argent sont tellement faciles de nos jours où on est capable de recycler cet argent-là. Et c'est terrible parce qu'il n'y a pas de mécanique, puis on n'a pas les forces de l'ordre n'ont pas la capacité d'intervenir efficacement dans ce cas-ci. Et c'est très complexe avec les côtés internationaux, parce que tu parlais justement, il y a acheté des cartes en Allemagne. C'est une autre juridiction, on vient de sortir, mais dans les faits, l'individu est peut-être assis en Italie et il n'y a pas de choses où il est peut-être assis en Chine, il est peut-être assis en Australie. Il n'y a pas de différence. Il a juste blanchi dans un autre pays, il n'y a pas de capacité, ça retourne, puis il a revendu sur le black market, peut-être en Amérique du Sud, puis pouf, c'est fini, l'argent est blanchi, elle s'est promenée à travers le monde, puis il n'y a personne qui a été capable de facilement. Et les seuils de transfert internationaux qui permettent de lever les alarmes sont à ce stade-là tellement hauts par rapport à ce genre de fraude-là que c'est difficilement visible. Au Canada, je pense que c'est 10 000 $, ou au Canada et aux États-Unis, c'est 10 000 $ qui est le seuil de transfert d'argent qui est intercepté par l'agence qui surveille les déplacements d'argent interpays, justement pour intercepter les affaires de fraude. Mais dans ces cas-là, s'il a passé dans plusieurs pays, il a envoyé moins des seuils qui sont connus pour lever les alarmes. Mort de rire, il a recyclé son argent, il a empoché, il est tranquillou chez lui, il prend un petit café.
Surtout que là, c'est terrible, c'est que c'est de l'argent numérique qui est sur ce site de cagnotage. L'argent numérique est transvasé sur différents sites, Amazon, G2A, peu importe. Là, cet argent se transforme en cartes cadeaux qui sont mis dans des boutiques. Les boutiques, on ne sait même pas qui vient acheter. Les mecs mettent l'argent qu'ils ont peut-être payé par un PayPal ou par d'autres moyens frauduleux. Ils reçoivent le numéro de carte cadeau. Ils vont peut-être acheter des logiciels, donc ils vont se retrouver avec des licences officielles, licences qu'ils vont revendre sur Amazon, sur eBay et compagnie. Bref, pour remonter ça, mais c'est l'enfer. Les outils sont génialissimes. Ce que nous propose Amazon et compagnie, c'est génial. Sauf que les pirates l'ont compris aussi qu'ils pouvaient s'en servir eux-mêmes à leur propre fin. Et effectivement, tu parlais des autorités. Remonter ce genre de choses, c'est purement l'enfer.
Et en plus, c'est des petits montants dans le cas de cette cagnotte-là. Mais tout l'autre problème, c'est tous des petits montants. Fait que la généralisation, ils ont étalé les crimes. C'est plus des crimes de 1 million, 10 millions, 30 millions. C'est des petits crimes à 30 000, 50 000. Mais beaucoup de petits crimes qui, malgré tout, totalisent 5, 10, 15 millions qui étaient volés avant. Là, on est plus. Puis les autorités, parce qu'ils doivent faire des choix, vont s'intéresser à des crimes de 5, 10, 15 millions parce que c'est plus sensationnaliste. Ça aide à financer leurs choses. Et ils ont des ressources limitées. Ils vont se concentrer sur des crimes qui sont à plus grande portée. Ce qui fait que les individus comme toi et moi, finalement, on est... laisser un peu pour compte dans ce genre de choses-là. Puis là, c'est comment comment les grands acteurs du web, de cet argent numérique, peuvent jouer un rôle pour limiter ou freiner cette utilisation-là de Blurs.
L'éducation. Pour moi, je pense qu'il n'y a que l'éducation. Il faut que les gens comprennent qu'il va falloir écouter et arrêter de se dire que ça n'arrive qu'aux autres. La question n'est pas de savoir pourquoi moi, mais quand. Hein, ça déjà, on n'arrête pas de le dire. Et gardez cette phrase. Moi, c'est ce que me disait ma grand-mère. Elle me disait, on met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est le même principe pour ses mails et ses mots de passe. Hein, on n'utilise pas les mêmes choses. On n'arrête pas de le dire. Ça, c'est le même principe. On ne met pas ses mêmes œufs dans le même panier. Bah, les pirates font exactement pareil aujourd'hui. Une fois qu'ils ont volé un élément, ils n'ont pas qu'un seul œuf. Non, ils en ont plein. Vaut mieux avoir plein de petits œufs. Hein. Au Maroc, on dit, je préfère gagner $1 aujourd'hui que 100 demain. Parce que 100 demain, c'est pas sûr. Non, vaut mieux avoir plein de petits œufs à droite à gauche. Au moins là, ils sont sûrs de toucher. Et s'ils en cassent un, c'est pas grave, il en reste d'autres.
Ce qui est terrible, c'est la mécanisation de ces marchés-là et la facilité à quel point ils sont capables de mécaniser. Les outils sont capables de faciliter le travail pour de petites interventions. En tout cas, c'est complètement fou comme pour ce que c'est. Et tant qu'à basculer dans ce genre de choses-là, puis là, c'est ma nouvelle, qui est la Nouvelle-Orléans. Le maire de la ville de Nouvelle-Orléans a déclaré l'état d'urgence puisqu'ils ont été la cible d'un rançon logiciel, semblerait, qui aurait mis à terre plusieurs éléments de leur système informatique. Les nouvelles sont incomplètes pour le moment. Selon leur dire, il n'y a pas eu de fuite d'informations, il n'y a rien qui critique. Le 911 fonctionne encore, ainsi de suite. Par contre, ils ont fermé les serveurs de façon préventive pour éviter qu'ils perdent des données, qu'ils se ramassent à des situations qui pourraient être toxiques, néfastes. C'est quand même terrible de penser qu'une grande ville comme celle-là tombe. Il n'est pas exclu que d'autres grandes villes pourraient tomber aussi. Là, on est en Amérique, mais en Europe, en Asie, c'est aussi. Ça change strictement rien. Là. Oui, Damien?
Oui, c'est intéressant, c'est que ça touche tout le monde. Au même moment, en France, deux grosses sociétés de sport, Courir et GoSport, eux aussi ont dû bloquer des ordinateurs, ont dû bloquer leurs serveurs, parce que eux aussi attaqués par ransomware. Le groupe GoSport, c'est 86 magasins en France. Heureusement, hein, je mets des guillemets, vous voyez pas à la caméra, hein, mais je mets deux guillemets au-dessus de ma tête. Il y a que deux boutiques qui ont dû être fermées sur les 86. Pourquoi ? Parce que ces deux boutiques-là venaient d'installer le nouveau logiciel dédié aux caisses et que, à première vue, le ransomware bloquait, entre autres, les logiciels environnant ces caisses. Donc, par précaution, aujourd'hui, les entreprises préfèrent fermer. Mais ça montre que les pirates attendent. D'abord, ils sont dans la place, ils attendent et ils cliquent.
Oui, on est dans un drôle d'univers. De façon professionnelle, j'ai été en contact avec des rançons logicielles à plusieurs reprises depuis probablement les 3 et 4 dernières années. Ça revient cyclique. J'ai eu la chance, dans le cadre professionnel, de soit intervenir à temps avant qu'il y ait une infection massive ou soit d'être capable d'intervenir justement avant que l'infection débute même. Donc, j'ai quand même eu une certaine chance. Un hasard qui m'a permis d'intervenir dans le temps opportun chez les différents clients dans lesquels cette situation est arrivée, mais ces gens-là, je ne qualifie pas leurs compétences parce que j'imagine que la ville de Nouvelle-Orléans a quand même une équipe TI qui doit être quand même assez importante, contrairement à des petites villes dans des petits villages. C'est quand même fascinant que ça arrive parce que c'est désastreux, les rançons logicielles. Là. C'est vraiment désastreux comme les dommages que ça fait.
Et ce qui est désastreux, c'est qu'il y a ce qu'on sait, hein, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de le dire parce que ça impacte donc du coup indirectement le public ou les clients. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est tous ceux qui n'en parlent pas et c'est tous ceux qui paient.
Tout à fait. Puis ça, je vais faire une parenthèse. Puis de toute façon, je vais prendre un épisode spécial seul où je vais faire un coup de gueule sur, pas sur Desjardins, mais ce que tous les gens disent sur Desjardins, le problème qu'il est, puis c'est un des sujets que j'avais l'intention d'aborder, c'est que tous ces gens qui critiquent, par exemple, ce que Desjardins fait, tout ce qu'ils font, n'incitent pas les entreprises à être ouvertes et être transparentes tant qu'à leurs problèmes et à vivre ça. Comme ils vont tous avoir excessivement peur de se faire critiquer sur la place publique, ils vont tous garder pour eux-mêmes. En tant que professionnel de sécurité, je trouve qu'on a un rôle à jouer et de ne pas lancer des rushs à ces compagnies-là qui osent en parler publiquement des problèmes qu'ils ont. Ils devraient à la place les accompagner, les aider, être positifs dans le message parce que si Desjardins l'a dit, Il n'est pas dit que les 5 banques canadiennes, on n'est pas beaucoup, vont en parler parce qu'ils ont vu l'expérience de Desjardins. Ils vont être vraiment très frileux en en parler publiquement comme Desjardins l'a fait. Et ça, c'est ultimement néfaste pour tout le monde parce que si on n'en parle pas publiquement, on ne réglera jamais les problèmes de rançon logicielle, on ne réglera jamais les problèmes de fuite de données parce qu'on ne partage pas la connaissance et on garde tout pour nous, on est tous gênés. Avec ça, je suis très dérangé par cette critique publique-là.
Attention, Nicolas le Jedi arrive.
Non, il y a quand même, mais ultimement, je trouve ça malheureux parce que, c'est, je veux dire, tous les petites PME qui doivent se faire lessiver, là, puis là, on ne parle pas juste au Québec, on parle à travers le monde et qui n'en parlent pas, c'est un peu fâchant qu'on soit ultimement les gens en sécurité, notre propre ennemi à cette collaboration, à cette ouverture, à cette capacité d'intervenir de façon positive et contribution à l'ensemble de ce que c'est. Bon. Bref, j'ai fini. Je vais faire un thumbs up. Oui, j'ai fini mon coup de gueule. Finalement, je ne ferai peut-être pas un épisode spécial. J'ai fait mon coup de gueule. Là, Damien m'a donné l'opportunité. Fait que ça s'est fait comme ça. Sur ce, on a épuisé les nouvelles. Et Damien rit, là.
Ben ouais, non, mais c'est bien. C'est... Nicolas, vas-y, Jedi, il arrive.
Oui, bon, fait qu'on on va clore. C'était, dans le fond, le premier épisode de Damien en sol canadien.
Ben écoutez, oui.
Sûrement pas le dernier.
Ah ben, je pense que... Non. Et puis, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai toujours tous mes contacts et toute l'actualité européenne. Donc, on va continuer. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir rencontrer aussi, eh bien, tous ces gens qui nous écoutent ici, dans ce beau pays. Donc, c'est plutôt top. Bon, là, je vais vous laisser, hein, parce que l'imagerie européenne veut que maintenant, je vais rentrer dans mon igloo, que je vais me vêtir d'une peau de bête. Et après avoir coupé des bûches et après avoir été poursuivi par un ours, je vais pouvoir dormir.
Dans le pays des ours. Et mais je fais un dernier élément avant de raccrocher. Effectivement, comme Damien est en sol canadien, on va avoir l'opportunité de faire des lives beaucoup plus régulièrement, étant donné que je suis à Montréal de temps à autre. Fait qu'on aura cet élément-là. Puis probablement qu'on va essayer d'organiser à Montréal un enregistrement public où on vous invitera à venir assister à nos folies en live. Ciao!
Les lives Poutine. Ciao, ciao!